فيمينا. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. C'est dans la presse. Journaliste en danger dénonce la tentative d'assassinat le 9 janvier d'une journaliste à Butembo dans le Nord Kivu en RDC par deux hommes en tenue militaire. Alicia Kapisa, directrice de la radio communautaire Salama, a été attaquée alors qu'elle revenait de sa rédaction. Les deux hommes l'ont menacée à l'aide d'armes à feu. Selon JED, elle a été conduite vers un lieu obscur où elle a été tabassée. Contactée par l'ONG à partir de son lit d'hôpital, la journaliste a déclaré que l'un des agresseurs a refusé qu'il tire sur elle. Journaliste en danger a demandé aux autorités locales de réagir fermement à cette agression et insiste vivement sur la mise en place d'un mécanisme de protection des journalistes en RDC. La championne olympique iranienne de taekwondo, Kimia Alizadeh, se trouve aux Pays-Bas où elle s'entraîne en vue des JO de Tokyo. La probabilité qu'elle soit naturalisée néerlandaise avant les Jeux est pratiquement nulle, mais elle pourrait demander à intégrer l'équipe olympique des réfugiés, a déclaré Mimoun El Boudjoufi, son entraîneur à Eindhoven. Kimia Alizadeh a annoncé le 11 janvier avoir quitté son pays. « Je fais partie des millions de femmes opprimées en Iran », dit-elle sur son compte Instagram. « J'ai porté tout ce qu'ils m'ont dit de porter », ajoute celle qui a décroché le bronze au JO de Rio. « J'ai répété tout ce qu'ils m'ont ordonné de dire et eux, ils ont mis mes médailles au crédit du respect du voile obligatoire sans accorder aucune importance aux femmes athlètes », estime-t-elle. L'italienne Barbara Baldi a remporté le Grand Prix Artemisia de la BD des femmes pour Ada, un roman graphique qui raconte comment une jeune femme sous l'emprise de son père parvient à s'évader grâce à la peinture. L'artiste italienne donne à voir une palette au service d'un récit hautement symbolique, celui de l'émancipation féminine et de sa libération par la réalisation d'une œuvre, indiquait le jury. L'association Artemisia distingue annuellement en France depuis 2007 une bande dessinée réalisée par une femme, Artemisia Lomi Gentiles, qui était une artiste peintre italienne du XVIIe siècle. Féministe jusque dans ses œuvres, elle s'est imposée par son art à une époque où les femmes peintres n'étaient pas facilement acceptées. Le jeune Ivoirien retrouvé mort le 8 janvier à Roissy-Charles-de-Gaulle dans le train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan à Paris avait 14 ans, selon le ministère des Transports ivoirien. Il s'agit de Annie Guibaï Laurent Barthélémy, dont l'identité a été confirmée par les parents. L'adolescent s'est agrippé au train d'atterrissage de l'aéronef alors que celui-ci s'apprêtait à s'élancer pour son décollage. Le ministre Amadou Koné a dit qu'il a probablement eu accès à l'espace aéroportuaire en escaladant le mur. Ces dernières années, plusieurs personnes, dont des enfants en provenance d'Afrique, ont été retrouvées mortes dans des soutes de trains d'atterrissage. En 2013, le cadavre d'un garçon avait été retrouvé à Roissy dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance du Cameroun. Les températures descendent à moins 50 degrés Celsius entre 9000 et 10000 mètres d'altitude. Les logements de trains d'atterrissage ne sont ni chauffés ni pressurisés. Les rares pilotes féminines du Dakar, au nombre de 13 sur 557 inscrits à Jeddah, disent espérer que leur participation aide la cause des Saoudiennes. « Je suis contente de représenter les femmes ici », a fait valoir Laïa Sanz, motarde espagnole de 34 ans qui prend part au rallye pour la 10e fois. Sous l'impulsion du prince héritier Mohamed Ben Salman, l'Arabie Saoudite a entrepris un vaste programme de réformes qui comprend un assouplissement des interdictions pesant sur les femmes. Les Saoudiennes restent néanmoins largement sujettes à la tutelle masculine et le gouvernement a accentué la répression contre les féministes dont certaines sont emprisonnées.
Parole de femme.
Au siège de l'UNICEF à New York, une projection inédite du film nigérian The Milkmaid a été organisée dans le cadre de l'initiative onusienne Spotlight visant à éradiquer les violences basées sur le genre. The Milkmaid, la laitière en français, est un film de Desmond Ofbiagele, un financier reconverti dans le cinéma. Il raconte l'histoire de deux sœurs dont les vies ont été bouleversées par la violence des insurrections militantes d'une région rurale du nord du Nigeria. Un reportage de notre correspondante à New York, Dilidiko, dans lequel s'exprime notamment la femme d'affaires Folorunsho Alakidja et la directrice de Spotlight, Nala Valji.
L'histoire est celle d'Aïcha, une laitière peul confrontée à l'extrémisme religieux en Afrique subsaharienne. Séparée de sa sœur lors d'une attaque ayant décimé son village, elle part à la recherche de Zeynab, sa cadette enlevée par une bande d'insurgés. Obligée de s'adresser aux responsables de leur séparation, elle vit le sort des femmes affectées par la violence, l'exploitation, les viols et les mariages de fillettes.
Il était important pour nous de faire ce film parce que souvent, en particulier en Afrique, il y a tellement de choses qui se passent que des réalités comme celle-là sont de plus en plus poussées au second plan dans les journaux et dans la conscience publique. Nous avons donc besoin d'un narratif et d'une documentation visuelle de ce qui se passe pour rappeler aux gens que le fait de ne pas entendre parler tous les jours de ces problèmes ne veut pas dire que la situation n'est pas aussi grave et tragique.
Ce film, qui juxtapose les couleurs et la beauté de la culture peul Haoussa, est une représentation des épreuves traversées par les victimes de violences. Inspiré de l'image de deux laitières peul immortalisées au dos du billet de 10 naira, le film permet d'actualiser le contexte et de mettre en garde contre les dangers de l'extrémisme.
Cette réalité est généralement mise en lumière lorsque vous entendez parler de campagnes comme Bring Back Our Girls. Mais la vérité est que le problème est actuel et nous devons arriver au point où nous disons « Cessez de prendre nos filles, car c'est ce qui se passe en ce moment. »
Nous constatons que les histoires changent. C'est à la fois réconfortant et encourageant. Bien sûr, nous prévoyons de faire beaucoup plus. Nous ne nous limiterons pas qu'au Nigeria.
Pour Madame Alakidja, il faut apprendre aux femmes à pêcher au lieu de simplement leur donner le poisson. Cet objectif d'autonomisation fait partie de la vision de l'initiative Spotlight, un effort mondial sans précédent qui vise à mettre un terme à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles.
Nous disons souvent qu'une femme sur trois est victime de violences au cours de sa vie. Mais nous devons aller au-delà, prendre en compte le coût humain et voir le visage humain de cette violence pour pouvoir passer à l'action.
À ce jour, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues au monde. Dilidiko, VOA Afrique, New York.
Lors de sa première messe de l'année 2020, le pape François a dénoncé les violences contre les femmes et l'exploitation de leur corps à travers le consumérisme et la pornographie. Les femmes sont continuellement offensées, battues, violentées et poussées à se prostituer, a estimé le chef de l'Église catholique dans son homélie à la basilique Saint-Pierre, déplorant que le corps de la femme soit régulièrement sacrifié sur les autels profanes de la publicité et du gain. Lors de la première liturgie de l'année traditionnellement consacrée à Marie, le pape a aussi souligné l'importance du rôle des femmes dans la résolution des conflits, soulignant que la femme est donneuse et médiatrice de paix et doit être pleinement associée au processus décisionnel.
Si jeunesse pouvait.
Le 4 janvier 2020, le président sénégalais Macky Sall a lancé la première édition des journées mensuelles de nettoiement visant à rendre les villes plus propres. Dans la capitale sénégalaise, les populations ont bien répondu à l'appel du 7 Sétal, nettoyage en Wolof, pour des villes sans déchets. La jeunesse dakaroise et les associations féminines ont fait preuve d'enthousiasme lors de cette première journée verte. Un reportage de Sédina Abagué.
À Dakar et dans sa banlieue, des centaines de personnes sont sorties pour rendre les rues plus propres en écho à l'appel du chef de l'État. Pour Mohamed Abdoulatif Sy, les populations ne devaient même pas attendre cet appel du président de la République pour rendre leur cadre de vie plus sain.
C'est nous qui habitons ici, quoi. Donc, attendre le président pour qu'il fasse des discours, pour qu'on commence à nettoyer, pour moi, ça vaut pas la peine, quoi. Peut-être aussi que essayer de conscientiser les populations, les jeunes, vraiment de s'y mettre. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est nous qui habitons ici. Et c'est nous qui devrons le faire.
Un message bien compris par les habitants de Amon 6. Dans cette cité de la banlieue dakaroise, le Cleaning Day a été instauré depuis longtemps, comme l'indique la présidente de l'association des femmes. Trouvée en train de balayer les rues en compagnie des jeunes de la localité, Elisabeth Ndiaye affirme que le nettoiement est garant de bien-être et de productivité.
Quand on est sale, on est la cible des microbes, donc des maladies. Et quand on est malade, on n'est pas productif. On n'a pas d'activité. Donc là, vraiment, je crois que la population va adhérer à ça. Les mesures qui vont être prises, peut-être que ça sera une sensibilisation. On ne doit pas cesser de sensibiliser parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Donc nous, on va continuer à sensibiliser en ce sens-là.
Pour que cette dynamique soit maintenue afin de garantir le succès des journées mensuelles de nettoiement, le vieux Bokoum, chef de quartier de Amon 6, conseille d'éviter la politisation de cette initiative citoyenne.
Que chaque résident reste dans sa propre cité pour exécuter le travail. Pour éviter le côté folklorique. Parce que je pense que pour le désensemblement, l'environnement, le social, je pense qu'on n'a pas besoin de la musique, de faire de n'importe quoi. Vous avez vu, vous avez constaté, même à Amon 6, il n'y a pas de musique. Et les gosses sont mobilisés, les vieux sont mobilisés, les femmes sont mobilisées.
Pour que les efforts des populations ne soient pas vains, certaines municipalités ont déjà instauré des comités de surveillance et de suivi. Momodou Baydissi, maire de la commune d'Ndiarem Limamoulay, est haut conseiller des collectivités territoriales.
Nous, on a mis en place une équipe de superviseurs, comme on l'appelle. C'est une équipe de 6 jeunes qui ont pris service depuis le 2, après le discours du président. Et ils vont faire le tour de la commune quotidiennement. C'est leur job. Ils vont voir comment les choses se passent, quels sont les gens qui posent des trucs et n'importe quoi. Et ils viennent nous rendre compte pour qu'on puisse prendre les mesures qu'il faut. De toutes les façons, on ne sera pas tendre. Parce que net, le président, quand il dit, ah, c'est le président qui a parlé. Le président, c'est la voix la plus autoriste, la plus haute de ce pays-là. Donc quand le président parle, tout le monde doit s'y mettre.
Pour appuyer les municipalités et accompagner l'engouement et la mobilisation des populations, le chef de l'État a annoncé un grand prix du président de la République pour la propreté, pour des villes vertes, des villes avec zéro déchet. À Dakar, Sidina Abagui pour VOA Afrique.
Des dizaines de millions de personnes en Afrique australe et orientale sont confrontées à une insécurité alimentaire d'urgence, due en partie au changement climatique. Plus de la moitié d'entre elles sont des enfants, selon Save the Children. En 2019, certaines régions ont été frappées par des cyclones, des inondations et la sécheresse. Les scientifiques mettent en garde contre un éventuel réchauffement rapide de plusieurs zones. Le point avec Blanche Sanou, reprenant notamment les propos de la directrice humanitaire de l'ONG, Gabriela Weijman.
Le cyclone Idai s'est abattu sur le Mozambique en mars dernier, tuant des milliers de personnes et détruisant des régions entières. Cette tempête, l'une des plus importantes jamais enregistrées, aurait causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts. Un mois plus tard, le Mozambique a encore été frappé par une autre tempête, le cyclone Kenneth, tuant des dizaines de personnes. L'organisation caritative Save the Children estime que l'année 2019 restera dans l'histoire comme l'année de la pire crise climatique en Afrique orientale et en Afrique australe. Elle prévient également qu'au moins 33 millions de personnes dans la région seront confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire d'urgence, dont plus de 16 millions d'enfants, et cela est dû au changement climatique.
Le lien avec le changement climatique est en réalité l'effet composé de plusieurs urgences à la fois. Donc la capacité des victimes à se remettre d'un choc, comme une sécheresse ou une inondation à un moment donné, se réduit de plus en plus. Et par conséquent, leurs moyens de subsistance diminuent lentement et sûrement ou sont littéralement emportés.
Un rapport de 2015 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indique que les températures augmentent en Afrique australe à un taux deux fois supérieur à celui du monde. Save the Children affirme que les dirigeants des pays industrialisés doivent s'engager à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à soutenir davantage les personnes les plus touchées par le changement climatique.
Si vous êtes un enfant qui grandit en Afrique orientale ou australe, vos chances de survie sont actuellement affectées par des actions entreprises par des personnes dans une autre partie du monde sur laquelle vous avez très peu de contrôle ou d'effet.
Save the Children a également tiré la sonnette d'alarme sur la situation des enfants au Mali, qui sont les plus durement touchés par l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans le nord et le centre du pays. Les régions de Ménaka, Mopti et Kidal ont les taux les plus élevés d'enfants déplacés non scolarisés, estimés à plus de 300 000. Eric Manirakiza a joint à Bamako le porte-parole de l'organisation au Mali, Salé Koulda.
Il ressort des décomptes que les services du ministère en charge de la protection et le HCR font au niveau des zones d'accueil, principalement au niveau de Sévaré, la principale ville de la région de Mopti, où nous enregistrons les déplacements. La tranche d'âge, évidemment, c'est principalement des enfants entre 2 euros, parce qu'il y a des nouveaux-nés, évidemment, de 0 à 14 ans. Très souvent, c'est des enfants qui sont en tranche, en âge d'aller à l'école. Et certains parmi ces enfants qui, aujourd'hui, sont déscolarisés.
Justement, vous estimez à plus de 300 000 le nombre d'enfants non scolarisés et plus de 1050 écoles fermées. Quelle est l'alternative aujourd'hui?
Ces enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Ils se retrouvent d'ailleurs beaucoup à Bamako, dans la capitale. Si vous venez à Bamako, vous rencontrez des enfants dans la rue. Et même le recrutement par les groupes armés. Donc l'alternative aujourd'hui à travers nos programmes, c'est de fournir des programmes d'urgence en éducation à travers les centres d'apprentissage temporaires. Avec le ministère de l'éducation, bien entendu, une sorte de programme d'accélération. Le ministère a une stratégie de scolarisation accélérée, une stratégie nationale, qui consiste à mettre ensemble dans une grande salle unique les enfants disponibles, déplacés et d'autres enfants autour d'un programme de 9 mois. Et qui leur permet maintenant d'être versés dans l'école formelle. À l'évaluation au terme de 9 mois, les 2 premiers mois, c'est la langue nationale, les langues nationales du milieu qu'ils apprennent, et les 7 autres mois, c'est le français. Et à l'évaluation, on évalue. Le premier niveau est versé au niveau 4e année d'une école classique. Et ceux qui viennent après, ils sont versés au niveau 3, et ceux qui sont moins bons au niveau 2. Dans tous les cas, ils rattrapent 2 à 4 ans de scolarisation. Et très souvent, ils arrivent de façon extraordinaire à s'inscrire définitivement.
Salé Koulda est le porte-parole de Save the Children au Mali.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Le procès pour complicité d'un pilote de ligne français soupçonné d'avoir visionné en direct via Internet des agressions sexuelles sur des fillettes aux Philippines qu'il commandait depuis chez lui a débuté le 13 janvier à Paris. Cet homme est apparu dans une enquête initiée en 2012 par le FBI disant qu'il était très actif sur des réseaux pédopornographiques du Darknet. Interpellé en 2014, Stéphane L. a déjà été condamné en 2003 pour détention d'images pédopornographiques. Les investigations ont mis au jour des dizaines de virements bancaires vers les Philippines. Selon l'accusation, des archives de conversations sur Skype ont démontré qu'il donnait des instructions à une personne adulte qui imposait des agressions sexuelles à des filles de moins de 10 ans. Après 28 mois en détention provisoire, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il comparaît donc libre.
Entre parenthèses.
Dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, plus de 5000 personnes attachées au travail de la terre et au développement en milieu rural ont pris part le 2 janvier à la 12e journée champêtre tenue à Walungu, à 40 km de Bukavu. De nombreuses productrices ont assisté à l'événement organisé par le comité pour l'autopromotion à la base, l'Association pour l'entrepreneuriat féminin et le groupe d'études et d'action pour le développement du Sud Kivu. Notre correspondant Ernest Mouero a tendu son micro à des organisateurs et participants.
C'est un véritable rendez-vous d'y donner et d'y recevoir dans cette mini-foire agricole dénommée Journée Champêtre. Du 2 au 4 janvier, les délégations des agriculteurs, fermiers, artisans, micro-entrepreneurs et revenus du Sud Kivu ont exposé les fruits de leur labeur et échangé d'expériences en matière de production et adoption de meilleures pratiques en présentant leurs attentes vis-à-vis des décideurs. Passion Bagenda, secrétaire général d'ICAB.
Nous voulons soutenir la production locale. Et les Journées Champêtres, c'est une occasion pour nous de montrer à l'opinion que la production est possible dans le pays si les paysans mettent en œuvre les différentes techniques, approches de production que nous vulgarisons. Nous voulons que les paysans, au-delà de l'agriculture pour vivre, consommer, manger, que les paysans transforment, donnent de la valeur à leurs produits. Nous montrons aux autorités politiques, aux acteurs économiques que grâce à des politiques bien avisées, eh bien, nous sommes un pays qui peut produire suffisamment et exporter.
Sur des stands dressés en demi-cercle sur un espace à découvert, la créativité locale est La richesse du Sud Kivu pointe aussi avec fierté. Bétail, animaux de basse-cour, manioc, fruits, bananes, légumes, légumineuses, pagnes, huile de palme et des produits manufacturés au niveau local se vendent dans une ambiance bon enfant avec des opportunités, des connexions. Jacqueline Ludungue de l'Association des femmes solidaires pour le développement intégré tient un stand.
Pour AFSD, ça nous a permis de faire connaître l'artémisia, la plante qui guérit le paludisme et permettre aux autres de la cultiver. Mais aussi, nous produisons du savon au niveau d'AFSDI. Nous avons découvert des organisations qui fournissent les matières premières dont nous avons besoin pour la savonnerie. Avec ces partenaires, il y a lieu de faire de bonnes affaires.
Le gouverneur du Sud Kivu, Théon Wabidje, promet la réhabilitation des routes de dessertes agricoles et un soutien aux agriculteurs encadrés.
Je suis très heureux, comme nous avons fait l'agriculture notre priorité, nous allons travailler avec cette organisation, l'ECAB, pour appuyer le travail qui est fait par les différentes coopératives, quitter l'agriculture de subsistance pour une agriculture mécanisée. C'est notre vision et nous allons voir ceux qui sont dans les secteurs, on va les appuyer avec des petits crédits, des petites subventions pour qu'on quitte les petites productions et qu'on commence à produire à grande quantité. Ils ont aussi posé un problème de fiscalité, c'est un problème qui peut s'irer aujourd'hui. Nous ferons des allègements.
Occasion pour le comité pour l'autopromotion à la base, en collaboration avec APEF et GADES, de plaider pour l'amélioration du climat des affaires dans les secteurs agricoles en favorisant des marchés intérieurs et surtout la souveraineté alimentaire. Outre la remise des prix aux meilleurs producteurs, cette 12e journée champêtre a tenu des conférences, débats sur des questions de développement ainsi que des projections de documentaires sur l'agriculture et échanges divers sur les défis de la production et la transformation agro-pastorale. Ernest Mouero à Walungu pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!